Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, ravis de la bulle, décomplexés du strip et agités de la planche. Il est midi ou peut-être 17h et vous écoutez L'Onde Curieuse, bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit une bande destinée à se rencontrer. Oui, une bande destinée avec un T, celui qui dessine un croisement, un carrefour, celui du 9e art et l'image qui aura lieu ce week-end, les 21 et 22 mars, à l'espace Liénard à Aubenas. Et il ne serait pas question de Ouba à ce micro, même si Baptême, le dessinateur du Marsupilami, est l'invité d'honneur de cette édition, mais plutôt de Oura. Oura pour deux causes. La lutte pour la dignité pendant la grève du juin français, ne vous méprenez pas, hein, le juin français, c'est le nom d'une usine à Saint-Brieuc en 1972, ressuscitée dans une BD documentaire réalisée par Gwenaëlle Régereau, qui sera l'une de nos deux invitées, et Oura pour ces femmes effacées de l'histoire et qui y ont pourtant magistralement contribué, comme Lily Renée, cette pionnière des comics américains, une femme qui a traversé le siècle haut le point et qui est mise en valeur par Janice Doe dans son roman graphique intitulé Lily Renée. Voilà, on a interviewé Janice Doe et Gwenaëlle Régereau, deux autrices parmi la trentaine présentes à l'Espace Liénard ce week-end à Aubenas. Deux interviews que vous retrouverez bien sûr après la bise du super héros du potard, Sylvain.
Super bonjour.
Ah oui, salut Sylvain. Et après l'agenda de Marion.
On commence demain à l'USAS avec deux rendez-vous à noter. D'abord à 18h30, direction la salle culturelle de l'Imaginaire pour une lecture suivie d'une rencontre avec Andrice Pierre en entrée libre. Donc, dramaturge et autrice haïtienne, elle développe une écriture autour de la mémoire, des identités féminines et des récits intimes. Sa résidence actuelle autour de Cher Electre interroge notamment la vérité, la filiation et la construction de soi. Et puis à 20h, toujours demain à l'USAS, mais cette fois au cinéma, dans le cadre du Printemps du Doc, Terre de Doc s'associe à la Maison de l'Image pour proposer Histoire de la Bonne Vallée de José-Louis Guérin, un documentaire sensible et poétique qui nous emmène aux marges de Barcelone, dans un territoire coincé entre rivières, voies ferrées et autoroutes, où habitants de toujours et nouveaux arrivants tentent de faire vivre un lieu traversé par les tensions sociales, urbaines et identitaires. La séance sera suivie d'un pot de l'amitié. Jeudi, cap sur l'Évance avec le Festival du cinéma pour les droits humains organisé par Amnesty International Ardèche Sud au cinéma Vivance. Au programme J'en suis, j'y reste de Marine Place, un film qui nous plonge au cœur du centre LGBTQ de Lille où des personnes exilées trouvent refuge et accompagnement dans leur demande d'asile. Un documentaire fort autour de l'exil, des persécutions et de la solidarité. Autre ambiance jeudi, mais toujours une soirée à vivre ensemble, dans le cadre du festival Les Insolites, rendez-vous à 19h au Théâtre des Quinconces à Vals-les-Bains pour Une soupe paysanne du groupe Tonne, un spectacle veillé entre théâtre, récits paysans, improvisation et moments partagés autour d'une soupe préparée avec le public. Le principe est simple, vous venez avec vos légumes et vos cuillères, vous participez à la préparation, puis vous partagez la soupe en musique. Et on vous le rappelle, on vous fait gagner deux places pour jouer. Il suffit de envoyer votre nom, prénom et numéro de téléphone à contact@frequence7.net. Et puis vendredi, on termine à Vaisseau pour une soirée en deux temps proposée par le Vaisseau Mère. À 19h, place à Suis le Papillon, un théâtre de marionnettes itinérant signé la compagnie Moarica. On y suit une cycliste, ses sacoches pleines d'histoires et des marionnettes qui parlent d'aventure, de liberté, d'amitié et de petites peurs. C'est tout public dès 7 ans. Puis à 20h30, place au concert Chansons à porosité variable avec Larchen et Danny Buchton pour un moment musical sensible, joyeux et imprévisible. Le tout se passe dans la cour ou au café Asso si la météo ne le permet pas. Le tarif est libre pour chaque spectacle avec adhésion annuelle à l'association demandée, elle aussi à prix libre. Et sur place, il y aura aussi buvette et petite restauration sur réservation.
Is it a trick, or am I tripping like a broken heart is kicked to it?
Is it a piece? I trace the rest of our extraordinary life in an old white box. Are we just like the table turns the sky? We're holding you for join in the fray. You're not killing. La 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 la. You're not killing. La 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 la. Hi. Is it a trick? I'm a tripping like my broken heart just keeps a beat. Is it a piece? Or just the rest of our extraordinary life in an old wine bar? Are we just like the table turns the sky? We're holding you for join in the fray. You're not killing. La 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 la. You're not killing. La 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 la. You're not.
On vient d'écouter Got the Munchies avec Gaza Strip, c'était en 2017 et c'est le choix de notre première invitée, Janice Dow, qui est autrice de BD, dessinatrice mais aussi musicienne, pour son roman graphique Lily René avec au scénario Arnaud Flock dans la collection Marabule chez Hachette. Janice Dow, que vous pourrez retrouver ce week-end au carrefour du 9e art et de l'image à l'espace Liénard à Aubenas. Salut Janice.
Salut.
Alors, on vient d'écouter Got the Munchies. Got the Munchies, qui est-ce ?
Alors, Got the Munchies, c'est mon groupe. J'étais chanteuse, guitariste, et je faisais les compos. Et donc, c'était un trio rock'n'roll. On a tourné pendant quelques années. On a fait une belle tournée en Angleterre, d'ailleurs. Et donc, voilà.
Vous êtes encore actif ?
Pas du tout. On a arrêté et je me suis plongée dans la bande dessinée. Et voilà, c'est chronophage. Donc du coup, j'ai arrêté le rock'n'roll. Mais voilà, je joue toujours un peu de côté. Mais je suis plus le groupe est plus actif.
Alors, donc BD, là, l'actualité. C'est l'actualité pour toi peut-être un petit peu tiède parce que tu es déjà sur un autre projet. Mais ouais. En tout cas, tu viens ici à Aubenas avec Lily René. Donc un roman graphique autour de cette figure, de cette première femme, enfin de cette femme, l'une des premières dessinatrices de comics. Raconte-nous un petit peu qui elle est.
Alors Lily René, c'est l'une des premières dessinatrices de comics aux États-Unis. Elle est juive, elle est née en Autriche. Et elle a été sauvée in extremis par ses parents. Elle a pris les premiers Kinder Transport. Donc avec son petit numéro et sa valise, elle est partie toute seule. Et après un grand périple qu'on raconte dans l'album d'ailleurs, elle a atterri aux États-Unis. Et aux États-Unis, à l'époque, il y avait des gros studios de comics qui embauchaient les femmes pour faire des petites mains. gommer les pages, faire du lettrage, etc. Puisque c'était les hommes à l'époque qui dessinaient les comics. Et quand les hommes sont partis à la guerre, ils se sont retrouvés sans personne pour dessiner. Et c'est comme ça qu'ils sont retournés, ils sont tournés vers les femmes pour leur dire, vous voulez pas prendre la plume et y aller. Et donc voilà, toute la bande de femmes qui sont dans l'album se sont retrouvées à faire les plus belles heures des journaux américains. Et l'histoire, c'est que quand les hommes sont revenus, on les a mis de côté et pour la plupart, elles se sont arrêtées. Il n'y a rien eu derrière. Donc il y en a une ou deux qui a continué, mais voilà, ça a été compliqué. Et donc voilà, elles ont été oubliées jusqu'à maintenant.
Comme beaucoup d'autres aussi dans le cinéma et dans beaucoup d'autres...
Dans tous les domaines, en fait. Mm. Les femmes ont pris le flambeau à l'usine, dans les champs, partout, etc. Et puis, quand les hommes sont revenus, elles sont revenues à leur place aussi. Et voilà, elles sont forcément des grandes actrices de tout ce qui s'est passé pendant la guerre, mais oubliées. Voilà. Mm.
Et au départ de ce projet-là, c'est Arnaud Floch qui a voulu porter cette histoire, ou c'est toi, ou comment ça s'est passé?
Alors c'est Arnaud Floch. Arnaud est un passionné d'histoire de la bande dessinée, collectionneur de planches, etc. Et donc il a une planche de Lily René et il s'est intéressé à elle. Et en fait, ça fait tilt chez les éditrices qui se sont dit, mais c'est incroyable cette histoire. Voilà, il y a des femmes qui ont œuvré pour le comics américain, parce que c'est une branche de comics et la bande dessinée. Voilà, c'est le début. Et en fait, elles étaient là, elles ont vraiment insufflé. Alors, il y a eu des personnages féminins qui sont arrivés dans le comics grâce à elles. Donc c'est assez drôle. Et donc c'est lui qui est venu me chercher pour dessiner cette histoire.
Mmh. Et en tant qu'illustratrice, toi, oui. quelle est ta marge de manœuvre? Comment tu peux jouer avec la trame du scénario pour t'éclater, pour te faire plaisir?
Alors en fait, j'ai reçu le scénario d'Arnaud et il m'a laissé toute la liberté de raconter. Donc ça passe par le découpage des planches et après de pouvoir. Alors il y a eu une recherche de doc assez dingue parce que on est quand même aux États-Unis dans les années 40, mais c'était assez chouette de dessiner des bâtiments, les fringues de tous ces gens. Et donc oui, je me suis éclatée sur le découpage, la façon de raconter. J'avais assez de liberté là-dessus. Donc, c'était très chouette.
Alors que c'était quand même une... Il y avait quelques contraintes, parce que là, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'éditeur Hachette, avec peut-être un trait qui permet moins de liberté.
C'est ça, l'éditeur voulait que... Alors moi, mon dessin, à la base, il y a beaucoup de masse de noir et voilà, on m'a demandé d'alléger un peu mon ancrage, de faire du réalisme, parce que le réalisme se porte beaucoup sur la BD historique, etc. Donc du coup, j'avais quand même cette contrainte d'alléger mon trait, on va dire, et de coller aussi à cette ambiance. J'ai reporté sur la couleur où j'ai pu faire un parti pris assez tranché, parce qu'il y a... Il y a l'histoire qu'elle raconte qui se passe pendant la guerre, dans l'atelier. Et ce qu'elle raconte, elle, de son enfance, puisque elle a quand même été sauvée in extremis, etc. Donc on raconte effectivement les Kindertransport, tout ça, tout ce qu'elle a, son passage en Angleterre, les bombardements, etc. Donc j'ai pris un parti pris sur les couleurs de faire du sépia et de partager les deux tranches de vie. J'avais quand même beaucoup mon mot à dire.
Et qu'est-ce que t'as retenu, toi, de cette histoire? J'imagine que tu... Enfin, je sais pas si tu connaissais Lily René avant, et qu'est-ce que ça t'a... Je vais pas dire qu'est-ce que ça t'inspire, mais est-ce que ça t'a influencé d'une certaine manière?
Oui, parce que c'est quand même... alors, c'est un personnage super fort, avec une résilience dingue. et d'avoir, puisqu'elle, elle rêvait depuis toute petite de faire de la bande dessinée, de dessiner, etc. Et après tout ce qu'elle a traversé toute seule, parce qu'elle était enfant pratiquement, c'était une très jeune fille, et d'arriver à réaliser son rêve, d'atterrir dans l'un des plus gros studios de comics, ouais, c'est une femme forte. Et j'en ai retenu aussi une part de l'histoire qui est assez... d'avoir été effacée, oubliée de l'histoire comme ça, c'est voilà, malheureusement, c'est arrivé dans beaucoup de domaines, comme on disait, mais ça amène ça aussi, quoi, que... on arrive à une certaine place et on peut être balayé d'un coup parce que y a l'histoire, ça avance et voilà. Mmh. Et ne pas oublier que c'était voilà, il fallait quand même un caractère et une résilience assez dingue pour arriver à tout ça. Ouais.
Et elle est décédée, je crois, juste avant ou au tout début du projet.
Ouais, c'est ça, au tout début de l'album. 2022. Ouais, à 102 ans, c'est devenu une très vieille dame. C'était très belle d'ailleurs, jeune comme vieille. Ouais, elle est décédée à 102 ans. Donc elle a eu une vie longue et remplie. Et elle est revenue un peu sur le devant de la scène à la fin de sa vie, parce qu'elle a eu des récompenses, etc. Enfin, son histoire a ressurgi avec tout le mouvement féministe, etc. Et donc on a réentendu parler de toutes ces femmes, ce qui est assez chouette, parce que ça a quand même dû lui faire du bien.
Une histoire à découvrir donc dans votre album à tous les deux, Arnaud Floch et à toi, Janice Do, donc qui s'appelle tout simplement Lily René. On va pouvoir s'immerger dans cette histoire. Et peut-être, alors, juste une dernière question, est-ce que tu penses qu'il y a eu, tu disais, elles ont ces femmes dans les années 40-50 introduit des personnages féminins, est-ce que tu crois que leur passage a complètement été effacé ou il y a eu encore quand même un peu des marques, une empreinte?
Alors je pense qu'il y a une empreinte parce que d'ailleurs les femmes prennent de plus en plus de place dans la bande dessinée et s'affirment et je pense qu'elles ont contribué, alors même dans les années 60, 70, etc., il y a eu un gros mouvement d'autrices qui est arrivé et qui servent encore à toutes les autrices qui sont là aujourd'hui. Donc ça a quand même laissé une belle empreinte. Elles n'ont pas été totalement oubliées.
Super. Eh ben, merci beaucoup, Janice. On peut te retrouver donc ce week-end à l'Espace Liénard avec ton bouquin Lily et René. Et celui à venir, ce sera autour de Félix.
C'est Félix Vallotton. C'est une adaptation d'un roman de Félix Vallotton chez Glénat.
Super. Merci beaucoup, Janice.
Merci.
J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre.
Bah oui, ça donne envie, hein, d'être, de faire la lutte, de lutter. On écoute là la Blanche Hermine de Gilles Servat, écrite en 70, paru en 71. Et on commence donc cette deuxième interview par une histoire de combat, je le disais, avec cet hymne qui incite les Bretons à la révolte, qui était au départ d'ailleurs un chant militaire repris avec un esprit un peu folk, voire un peu beatnik par Gilles Servat, c'était l'époque, et qui résonne avec un combat des années 70 en Bretagne, celui de la grève de l'usine Le Jouin français en 1972, au cœur du récit d'enquête de Gwenaëlle Régerot, enseignante, autrice, qui livre là sa première BD et qui s'appelle on ne peut plus justement Le Jouin français 1972, une usine en grève, paru aux éditions Des Rondes dans l'eau. Et vous êtes avec nous, tu es avec nous, Gwenaëlle, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là au téléphone, hein, en amont donc de ce week-end consacré à la BD à Aubenas. D'abord, un petit mot peut-être sur la Blanche Hermine qu'on vient d'écouter.
Alors cette chanson, elle a bercé mon enfance et c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches sur le genre français, ma route a croisé celle de Gilles Servat et c'était formidable de croiser cet homme qui a chanté cet hymne qui est vraiment a résonné longtemps dans ma famille et sur la Bretagne. C'est vraiment une chanson extraordinaire et que Gilles a reprise ensuite parce que les ouvrières du joint français trouvaient les paroles trop machistes. Donc il a modifié les paroles pour avoir une chanson à deux voix avec une chanteuse et un chanteur afin qu'elle résonne encore plus sur les combats ouvriers et les combats pour les ouvrières.
C'était en 75, cette réécriture. Alors, le joint français, comment en es-tu venu à exhumer cette histoire et à t'en emparer pour cette BD?
Alors, cette histoire, c'est quelque part mon père qui me l'a offerte de façon indirecte, puisqu'il a écrit un récit autobiographique qu'il m'a confié. Il souhaitait que je le relise. Et je suis tombée sur cette histoire et tout de suite j'ai senti le potentiel qu'elle avait. Déjà, c'est une histoire qui m'a attrapée, qui m'a agrippée comme ça là. Et j'ai eu tout de suite envie de la mettre en scène, de la mettre en image. Et aussi parce que je la sentais tellement forte que c'était dommage qu'elle tombe dans l'oubli. Donc c'était une façon de laisser une trace.
Ton père qui était militant syndical, c'est ça?
C'est ça, ouais. Et... Il travaillait dans l'usine de Sambre-et-Meuse, juste à côté du Joint français. Et quand le Joint français a débrayé, ils sont venus les chercher. Et toute l'usine aussi de Sambre-et-Meuse les a accompagnés pour manifester.
Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'histoire justement de cette grève en 72 de l'usine Le Joint français, qui était une filiale de la CGE, qui s'était implantée 10 ans auparavant en Bretagne?
C'est ça. Alors au départ, elle était située à Beson, dans le Val d'Oise. Elle a décidé de s'agrandir. Et à cette époque-là, c'était un peu Paris qui concentrait toutes les richesses, le pouvoir économique, au détriment des provinces. Et donc l'idée, c'était de permettre aux entreprises, si elles souhaitaient s'agrandir, de le faire non pas dans ce qu'on appelle un petit peu le mur des 400 kilomètres, hein, mais de franchir ce mur et d'obtenir des aides, des subventions pour pouvoir s'implanter dans ces zones désertifiées. Donc le Joint français se délocalise en 1962 et a énormément d'aides de l'État, de la région, de la municipalité, et on attend énormément de choses. On attend du travail hein, de cette entreprise, et finalement les promesses ne sont pas au rendez-vous, et 10 ans plus tard l'entreprise se mettra en grève pour demander notamment une égalisation des salaires avec Beson, mais aussi pour une reconnaissance de leur travail. Donc c'est aussi pas seulement une valorisation des salaires, c'est aussi une reconnaissance de la dignité des Bretons.
Et oui, parce qu'on allait, enfin, cette usine, mais comme d'autres, sont allés justement en Bretagne où les salaires étaient de 30 à 40% inférieurs à ceux de la région parisienne.
C'est ça. On estimait que les Bretons n'avaient pas besoin d'aller au théâtre, donc pourquoi leur donner des salaires plus élevés? Et puis, finalement, le Joint français n'était qu'une petite usine de production. Hein. L'idée était d'avoir des actionnaires, c'était du holding, en fait. Hein. Donc, peu importe le salaire des ouvriers, pourvu qu'on puisse défiscaliser, c'était vraiment l'intérêt qui était derrière. Donc, aussi, comme il y avait des primes à chaque emploi créé, il n'y avait aucun intérêt à pérenniser les emplois. On voit derrière toute la manne financière que pouvait représenter le Joint français pour la multinationale de l'époque, la CGE.
Et l'envie de raconter cette histoire, est-ce que c'est pas aussi pour toi une envie de raconter un autre récit, ou plutôt de substituer au récit, à alors c'est peut-être pas le récit dominant, ça je ne sais pas, mais un récit qui pointe un petit peu cette grève générale comme ayant fait énormément de mal au territoire de Saint-Brieuc et au-delà, transformer ce récit en proposer un autre beaucoup plus positif.
C'est ça, effectivement, dans les années qui ont suivi cette très grande grève, alors déjà à l'époque, on avait un certain nombre de personnalités politiques qui disaient que cette grève a fait du mal à Saint-Brieuc. Et donc beaucoup de gens qui pourtant avaient été très fiers de cette grève ont fini par la taire. Ils étaient pris de culpabilité. Et moi, ce que j'avais envie de raconter, c'était à la fois cette grève, mais aussi tout ce qui avait eu de sous-jacent, c'est-à-dire la solidarité. Enfin, ce que j'ai trouvé vraiment magnifique, et c'est ça, je trouve, qu'on devrait garder en mémoire. Donc à la fois, il y a une grève, mais c'est aussi l'idée que des campagnes sont venues des aides alimentaires. Et je trouve ça absolument formidable, l'idée... au-delà du monde ouvrier, que des êtres humains apportent à manger à d'autres êtres humains pour les aider à tenir une grève, pour les aider à se battre contre, enfin pour au contraire des valeurs très très fortes qu'est la dignité. Donc c'était effectivement c'était raconter une grève, mais aussi mettre en valeur ce qu'il y a de beau quand les gens se solidarisent autour de causes communes. Mmh.
Quel était le processus ? Est-ce que c'était, enfin, tu es enseignante, donc les textes universitaires, théoriques, etc. C'est quelque chose dont tu as l'habitude. Est-ce que tu t'es nourrie d'autres choses aussi ?
Mais c'est vrai qu'au départ, ma recherche allait vers des textes très théoriques et le risque, c'était de tourner justement dans une bande dessinée qui était trop technique. Alors moi, je suis ni historienne ni journaliste. J'aime raconter des histoires. Donc finalement, j'ai essayé effectivement de garder le côté théorique pour aussi proposer du contenu vérifié, sourcé pour les gens qui voulaient découvrir l'histoire. Mais j'avais besoin aussi d'aller vers le témoignage d'acteurs de la grève, Génie, Julia, que l'on croise, et Gilles Servat aussi, le chanteur, mon père. Parce que je trouve que le témoignage rend justement une parole plus authentique, plus humaine. Et de la même façon, je me mets en scène et j'utilise ce double qui n'est pas tout à fait moi pour porter un regard naïf sur cette grève que le personnage n'a pas connue et pour accompagner aussi le lecteur dans sa découverte. Mmh. Donc, effectivement, il y a une part très documentée, mais il y a aussi une volonté d'aller vers l'humain, vers sa parole, la retranscription de sa parole. Dans ce roman graphique.
Mmh. Donc une narration, on l'entend, qui est aussi entre deux époques, hein, aujourd'hui et 70. Comment tu as traité graphiquement ces deux époques différentes ?
Alors j'avais... Alors il y a presque trois époques, puisque... Enfin trois époques, trois moments. Effectivement, l'histoire commence dans le présent, en 2025. Le personnage revient sur la ville de Saint-Brieuc et se trouve à se questionner sur cette grève. Donc là, on est sur un présent qui est travaillé quasiment sous la forme d'une esquisse. Hein. C'est-à-dire que les pages, c'est un peu des dessins pris sur le vif, sur un carnet. C'est la raison pour laquelle je ne mets pas de cases, justement. Le dessin est extrêmement libre sur la page. Quand il y a des pages documentaires, ce sont des noirs et blancs extrêmement graphiques, cette fois-ci, qui sont presque sous forme de schéma. Et puis, j'avais pas envie non plus de tomber trop dans la bande dessinée, trop documentaire avec trop de schémas. Donc, j'ai choisi un troisième temps qui est le temps du passé. Cette fois-ci, on retourne dans le passé des personnages, avec plutôt un travail sur des valeurs de grille, sur des personnages plus en mouvement. Et plutôt qu'utiliser des petits cartouches avec je sais pas, 50 ans plus tôt, etc. J'ai choisi de varier les styles. Donc je me suis fait aussi énormément plaisir, parce que la bande dessinée, c'est un espace qui permet de raconter des histoires, mais c'est aussi un espace de création. Et donc vraiment, je me suis fait plaisir en variant les styles, en variant les noirs ou les valeurs de gris. Vraiment, c'était un espace d'amusement pour moi, la bande dessinée, et tout en veillant à chaque fois à ne pas perdre le lecteur et qu'il fasse bien la différence entre les différents moments didactiques, narratifs, etc.
Super. Eh ben, merci beaucoup Gwenelle Régéro pour cette BD. Donc on peut te retrouver donc pour le Juin français 1972, une usine en grève ce week-end à l'espace Liena à Aubenas pendant le festival, le carrefour européen du 9e art et de l'image. Et puis comme ça, on fera résonner un petit peu plus la solidarité et les luttes, et la solidarité entre les luttes d'ailleurs.
Avec grand plaisir, merci.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci aux autrices de s'être prêtées au jeu de l'interview. Merci à Sylvain à la technique, Marion à l'agenda, et à vous, chers bulleurs et bulleuses. Restez à l'écoute de Fréquence 7 si vous voulez bien, puisque à 15h vous retrouverez le Telex, à 16h sur la route, à 17h la rediffusion de cette onde curieuse, à 18h Polémix et la voix off qui est à Sainte-Soline 2 ans après avec le rapport de la Ligue des droits de l'homme, une émission hautement politique mais documentée et nécessaire. Voilà, et à 21h bien sûr, Metal Zone. Nous, on se retrouve jeudi. Ciao.